Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. Voici les titres de cette édition. Paris et Riyad accélèrent le rapprochement des milliards d'investissements et de nouveaux accords dans la défense. Une dynamique économique qui confirme surtout le renforcement du partenariat stratégique franco-saoudien. Coup de force israélien contre l'UNRWA à Jérusalem-Est. La police a investi un centre de formation de l'agence de l'ONU pour en évacuer les locaux. Après un été marqué par des incendies à répétition, le malaise des pompiers refait surface. Effectifs, matériels, conditions de travail, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Le décryptage de Romain Pudal, sociologue au CNRS et ancien sapeur-pompier dans cette édition. Bonjour, 6 milliards d'euros d'investissement dans 3 parcs d'attractions près de Paris, près d'un milliard de contrats dans les transports, mais aussi de nouveaux accords dans la défense. La visite de Mohamed Ben Salman en France confirme le changement d'échelle de la relation entre Paris et Riyad, car derrière les annonces économiques, c'est bien un rapprochement stratégique qui se dessine. L'Arabie Saoudite diversifie ses investissements et s'affirme parallèlement comme un acteur politique et géostratégique incontournable au Moyen-Orient. Une évolution qui, selon Hassni Abidi, spécialiste du monde arabe, donne aujourd'hui une nouvelle dimension au partenariat franco-saoudien. On l'écoute.
Le projet de la construction de 3 parcs d'attractions par la France, financé par l'Arabie Saoudite, est un indicateur objectif et tangible de la volonté saoudienne de diversifier ses investissements en France et dans le monde, mais aussi sa volonté de construire une proximité avec la nature des projets économique consenti et évidemment avec la France. Il ne s'agit pas seulement de parcs d'attractions, mais de plus de 21 accords sur plusieurs éléments, plusieurs secteurs, l'énergie, la culture, le sport. La France a déjà opté pour l'Arabie Saoudite comme un partenaire de choix dans la région. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est devenue un acteur incontournable, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. L'Arabie Saoudite qui a rejoint cette nouvelle initiative, cette axe avec le Pakistan et la Turquie, renforce sa position sur le plan géostratégique. C'est pourquoi la coopération entre Riyad et Paris a pris une nouvelle dimension depuis la visite de prince héritier à Paris.
Hassni Abidi, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, joint par Inès Gilles. En Cisjordanie occupée, des journalistes de l'AFP ont été agressés par des colons israéliens alors qu'ils couvraient des tensions près de Bethléem. L'un d'eux a été légèrement blessé à coups de bâton et leur véhicule a été endommagé. Les affrontements ont fait au moins 5 blessés selon le Croissant Rouge palestinien. À Jérusalem-Est, cette nouvelle offensive israélienne contre l'UNRWA, la police a investi un centre de formation professionnelle de l'agence de l'ONU à Kafr Haqqa. La structure accueille chaque année quelques 340 Palestiniens. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, revendique l'opération et affirme vouloir faire partir l'UNRWA du site, estimant que l'agence n'a pas sa place à Jérusalem ni en Israël. Le drapeau israélien a été hissé sur le toit du centre. Et puis, à Gaza, l'ONU juge scandaleuse les menaces israéliennes d'évacuer les habitants des zones d'où sont lancées volants, drones et ballons vers Israël. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dénonce une rhétorique contraire au droit international, alors qu'Israël menace d'intensifier ses opérations si ses lancements ne cessent pas. Le peintre et sculpteur Slimane Mansour, l'un des artistes palestiniens les plus renommés, est mort lundi à l'âge de 79 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé aujourd'hui. Originaire de Jérusalem, l'artiste dépeignait les traditions palestiniennes et la lutte de son peuple sous l'occupation israélienne. Inès Gilles.
Il laisse derrière lui une vie emplie de beauté et de mémoire. Le cœur serré par un chagrin indicible, nous annonçons que notre cher père a quitté ce monde, a déclaré sa famille dans la matinée, après que Slimane Mansour ait rendu son dernier souffle à Jérusalem-Est. Témoin de plusieurs décennies d'histoire palestinienne, l'immense artiste a contribué par la force de ses œuvres à en préserver la mémoire. Slimane Mansour était né à Bir Zeit, au nord de Ramallah, en 1947, l'année du plan de partition d'Israël et de la Palestine par l'ONU, un an avant la Nakba, l'exode palestinien. Il a étudié l'art et le design à Jérusalem, dont il est sorti diplômé en 1970. Et au fil des ans, il s'est imposé comme un gardien de la mémoire douloureuse de l'histoire palestinienne. Il avait reçu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le prix UNESCO Sarja pour la culture arabe en 2019. Parmi ses œuvres les plus célèbres, cette peinture baptisée « Le chameau des fardeaux » représentant un vieil homme palestinien habillé de haillons, probablement réfugié, en marche vers l'inconnu qui porte Jérusalem sur ses épaules. Slimane Mansour célébrait aussi la beauté de sa culture avec ses œuvres colorées d'orange et d'olive, ses robes rouges et roses de femmes palestiniennes pour dire l'attachement de son peuple à la terre et aux traditions. À l'annonce de sa mort, une pluie d'hommage a déferlé à la mesure de l'immense artiste qu'il était.
Merci Inès pour ces précisions. Au Liban Sud, les opérations israéliennes se poursuivent avec de nouveaux dynamitages d'habitations et d'infrastructures dans plusieurs localités. Des maisons ont notamment été détruites à Ainata, Zaoutar et Al-Sharqiyeh et dans le secteur de Meis al-Jabal, tandis que des oliveraies ont été incendiées entre Haris et Hadatha. L'artillerie israélienne a également bombardé plusieurs secteurs des casas de Nabatiyeh, Bintash Beil et Tir sur fond de mouvements de véhicules militaires israéliens dans la région. Un tournant pour la Syrie après près d'un demi-siècle d'isolement. Les États-Unis retirent officiellement Damas de leur liste des États soutenant le terrorisme, ouvrant la voie à davantage d'investissements et à une réintégration progressive dans l'économie mondiale. Une décision saluée par le président Ahmad al-Sharaa qui estime que son pays se libère d'un lourd fardeau. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nadia, pour Ahmad al-Sharaa, la Syrie tourne la page douloureuse de son passé, je cite. Le président syrien a salué la décision américaine de retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme sur laquelle il figurait depuis 47 ans. Une mesure particulièrement importante pour Damas car cette inscription constituait un frein aux investissements étrangers. Les nouvelles autorités syriennes cherchent aujourd'hui à attirer des capitaux pour reconstruire les infrastructures dévastées par plus de 10 années de guerre civile. Washington estime que cette décision permet de lever les derniers obstacles majeurs à l'investissement privé en Syrie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio évoque une voie vers la prospérité et souhaite favoriser la réintégration du pays dans l'économie mondiale. Et ce n'est pas tout parce que les États-Unis ont fait un autre geste en faveur des nouvelles autorités syriennes. Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamique dirigé par Ahmed al-Sharaa, a lui aussi été retiré de la liste américaine des principaux groupes et individus terroristes. Anciennement appelé Front al-Nosra, il avait été un temps la branche syrienne d'Al-Qaïda avant de rompre avec l'organisation en 2016. Pour le gouvernement syrien, cette décision marque donc une étape décisive. Le ministre des Affaires étrangères parle d'un moment historique, tandis que le ministre des Finances y voit une nouvelle possibilité d'attirer investissements et technologies pour soutenir la reconstruction du pays. Une reconstruction tant souhaitée par la population syrienne meurtrie.
Merci Inès pour tous ces détails. À Téhéran, les nouvelles sanctions américaines font monter la pression. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service alors que Washington promet d'asphyxier économiquement l'Iran en ciblant également ses partenaires commerciaux. Pékin prévient qu'il défendra fermement ses intérêts tandis que Téhéran assure pouvoir résister à cette nouvelle offensive économique. Une confrontation qui se joue aussi sur les eaux stratégiques du détroit d'Ormuz. L'Iran durcit le ton et menace de sanctions, voire de confiscation. 45 navires accusés d'avoir enfreint ces règles de transit. Au moins 14 d'entre eux ont déjà été endommagés lors d'incidents depuis le début de la guerre, principalement près des côtes d'Oman. En Afghanistan, l'UNICEF alerte sur une crise sans précédent. 1 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère risquent de mourir sans une prise en charge rapide. Au total, 3,7 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition aiguë dans un pays où près de 14 millions de personnes sont confrontées à une situation de faim aiguë. À Ceuta, l'Espagne veut accélérer le rapatriement après l'arrivée massive de plus de 70 000 migrants fin juillet. Entre 3 500 et 7 000 personnes seraient toujours dans l'enclave, dont des milliers de mineurs non accompagnés. Madrid promet des retours plus rapides, mais dans le respect de l'ordre juridique et des droits humains. En Grèce, 79 migrants, dont 2 femmes et 2 mineurs, ont été secourus au large de la Crète après avoir été repérés par un drone de Frontex. Les arrivées de migrants dans le pays sont toutefois en nette baisse, près de 42 000 en un an, contre plus de 61 000 sur la période précédente. En France, dans l'Aude, le village de Poma se relève après le passage d'une tornade d'une rare violence. Le bilan fait état de 39 blessés, dont 2 en urgence absolue et 300 habitations endommagées. Dans cette commune d'un millier d'habitants, les secours poursuivent leurs inspections pour évaluer notamment les risques d'effondrement, tandis que 1400 foyers restaient privés d'électricité ce matin. Les autorités parlent d'un événement exceptionnel et très traumatisant. Sébastien Lecornu veut remettre le dialogue social au cœur de plusieurs dossiers sensibles. Le Premier ministre souhaite que syndicats et patronats travaillent rapidement sur l'impact de l'intelligence artificielle et sur les arrêts maladie, sujet particulièrement sensible dans un contexte de réduction du déficit. Il appelle également à mieux intégrer l'adaptation au changement climatique dans le droit du travail. Une mission parlementaire va tenter de chiffrer la facture de la canicule. Les travaux débutent mercredi avec des auditions consacrées notamment aux conséquences économiques, sanitaires et aux moyens de lutte contre les incendies. La ministre de la Transition écologique estime que les épisodes de chaleur de cet été pourraient coûter entre 10 et 15 milliards d'euros au pays. Cet été, les incendies à répétition ont mis les sapeurs-pompiers français à rude épreuve et ravivé un malaise qui couve depuis plusieurs années. Manque d'effectifs, moyens matériels jugés insuffisants, conditions de travail difficiles. À l'approche de la rentrée, les syndicats appellent à la mobilisation et la tension monte avec le gouvernement. Romain Pudal, sociologue, directeur de recherche au CNRS et ancien sapeur-pompier volontaire, revient pour nous sur ce manque de moyens et ses conséquences sur le terrain. On l'écoute.
Ça fait largement plus de 20 ans qu'ils disent et répètent qu'il leur faut plus de moyens aériens, qu'il leur faut plus de CCF et des CCF de meilleure qualité et pas les vieux. Des fois, c'est vraiment des vieux machins. À chaque fois que c'est la situation de crise, on leur dit que ce sont des héros, que c'est magnifique, qu'ils sont extraordinaires. Et puis, vous avez peut-être vu, ils ont fait un tract disant, voilà, nous, on ne veut pas être des héros, on va arrêter avec cette terminologie. Ce qu'on veut, c'est juste les moyens de faire correctement notre travail.
Vous en parliez de cette situation très particulière en France, du recours à des sapeurs-pompiers volontaires de manière massive. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi qu'est-ce que ça pose comme problème ?
Oui, on a un système qui n'est pas forcément très, très connu. Le système français repose en gros sur 3 catégories de pompiers. Alors, de manière un peu marginale, des pompiers militaires qu'on trouve à Paris et à Marseille. et des pompiers professionnels qui sont des fonctionnaires de la fonction publique, quoi, territoriale, et puis l'armée de pompiers volontaires, donc qui représente quand même sur les 250 000 pompiers à peu près en France, qui représente 200 000 pompiers, donc c'est 80% des effectifs, on estime que c'est entre 60 et 70% des interventions qu'ils assurent. Dans la réalité, ce sont des gens qui sont artisans, auto-entrepreneurs, et, bref, qui ont une vie ou qui sont étudiants, et qui s'engagent comme pompiers volontaires. Et une des difficultés que pratiquement tous les départements de France connaissent, c'est que beaucoup s'engagent avec enthousiasme, avec envie de faire le métier le mieux possible, etc. Et puis ils se rendent compte au fil des années que on les exploite, quoi. Voilà. C'est une espèce de turnover qui pose beaucoup de problèmes parce que on les forme, ils acquièrent de l'expérience. Ils s'épuisent très vite et ils disparaissent de la circulation et on recommence avec des nouveaux, etc. etc. J'espère qu'on ne va pas attendre une nouvelle crise pour redécouvrir encore le problème l'année prochaine.
Romain Pudal, sociologue, directeur de recherche au CNRS, invité d'Inès Gilles dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à Anis pour la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 17h30, ce sera avec Roger Khoury. Excellent début de soirée à l'écoute de Radio Orient.